France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Quelques chiffres glaciaux et terrifiants pour commencer. 85 000, c'est le nombre de femmes et de jeunes filles qui, selon l'ONU, ont été assassinées en 2023 dans le monde parce qu'elles étaient des femmes ou des jeunes filles. 60%, c'est la part de ces femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou par un proche. Et 10 minutes, c'est la fréquence des féminicides à travers le monde. Toutes les 10 minutes. Féminicide alors, quelle est l'histoire de cette notion, sa résonance passée, actuelle, ses difficultés à être acceptées dans le champ médiatique, politique et judiciaire? Pour en discuter, une invitée ce soir, Margot Giacinti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sciences politiques, militante au planning familial du Rhône. Vous avez soutenu en 2023 une thèse à l'École normale supérieure de Lyon consacrée à l'étude des féminicides en France, de la Révolution française aux années 70. Et vous faites paraître cet ouvrage passionnant intitulé « Le commun des mortels ». Faire face au féminicide, c'est aux éditions Divergence. Et à mes côtés pour mener cette interview, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci de m'accompagner cette semaine encore. Et je lis, Julien, la une de l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, c'est « Femmes qui résistent ». Pourquoi ce choix ?
Eh bien, nous sommes à 3 jours, évidemment, de la journée internationale pour les droits des femmes, et nous sommes surtout à l'heure où les droits de ces femmes semblent attaqués de toutes parts dans le monde, en Afghanistan, en Iran, aux États-Unis. Le retour de bâtons réactionnaires fait craindre le pire. Nous faisons le portrait de ces résistantes qui se battent pour leur liberté à travers plusieurs portraits à l'étranger et en France. Un poster du signé Joël Jolivet qui rend hommage au courage de l'iranienne Aoud Ariel, et puis une reproduction du violentomètre. Le violentomètre, c'est proposé par le centre Hubertine Auclair, qui permet notamment de voir si votre relation est violente, toxique, et s'il peut y être, il y a des risques de violence conjugale.
Et cette semaine, Julien, grâce à vous, ce soir même donc, nous tirons ce fil à travers une notion, celle de féminicide, pour tenter d'en faire une socio-histoire. Écoutons le président de la République qui évoquait ce terme en 2019.
Ce combat pour l'égalité femmes-hommes est essentiel. Il est essentiel parce qu'il n'est pas gagné dans nos sociétés. Parce que les féminicides continuent en France comme dans tant d'autres États. Nous devons donner un statut juridique à ce sujet et bâtir une action efficace pour l'éradiquer encore davantage que nous ne l'avons fait. Parce que nous voyons dans tant d'États reculer l'égalité entre les femmes et les hommes, remettre en cause les droits des femmes à disposer de leur corps et les acquis des décennies passées.
Lorsqu'on entend évoquer le président de la République, ce terme, Margot Giacinti, ce terme de féminicide à la tribune de l'ONU en 2019, on se dit que la notion a fait son chemin. Est-elle arrivée à bon port ?
Alors, ce moment donc où Monsieur Macron donc utilise le terme, il marque quand même l'arrivée du point de vue des institutions de ce terme de féminicide. Mais il fait surtout suite à des années de mobilisation féministe. 2009, c'est aussi l'année où en fait où il y a eu le début des collages. Ces collages qui ont tant participé à faire connaître le terme, mais aussi finalement à le définir. Parce que si M. Macron l'utilise à ce moment-là, il n'est pas forcément défini, il n'est pas forcément connu. Donc on va dire qu'il peut arriver à bon port parce qu'on est sur un début d'émergence d'un problème public.
Julien Bisson.
Oui, est-ce qu'on peut justement parler de définition ? Est-ce qu'on peut définir féminicide par rapport à homicide notamment ? Et est-ce que cette définition fait encore débat ?
Alors, on retient généralement pour cette définition celle qui a été donnée par Diana Russell et Jill Radford dans les années 90, donc meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Alors, cette définition, elle peut paraître un peu circulaire. Meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que les femmes sont placées dans les sociétés, dans nos sociétés, dans une position de vulnérabilité structurelle qui les rendent en fait facilement appropriables, tuables, donc victime de violence, et cette définition-là, elle permet de définir en fait plusieurs types de féminicides. Donc bien sûr, en France, on pense souvent aux féminicides conjugaux, il y a d'autres formes, par exemple des lesbicides, des femmes tuées parce que lesbiennes, il peut y avoir des néonaticides sexo-sélectifs, quand on tue un bébé à la naissance parce que c'est une fille. Donc il permet de montrer qu'il y a un ensemble de faits qui sont des féminicides, et dont le point commun, c'est que des femmes ont été ciblées parce que femmes.
Je disais en introduction de cet échange que 60% des féminicides étaient perpétrés par les conjoints des femmes victimes ou des jeunes femmes victimes. Pourquoi ces conjoints vont tuer leur femme parce qu'elles sont une femme? C'est cela qu'il faut nous expliquer pour bien comprendre les dessous de cette notion.
Dans le cas des féminicides conjugaux, souvent, en effet, avant la politisation du féminicide, on pouvait entendre « il ne l'a pas tué parce que c'était une femme, il l'a tué parce que c'était sa femme ». Mais déjà, dans cette première réponse, on voit très bien que ces hommes pensent que ces femmes leur appartiennent, que ces femmes ne peuvent pas agir comme elles le souhaitent, y compris donc quand elles veulent en fait se séparer, divorcer, ou changer de vie, hein, voilà, récupérer une activité salariée, militer, etc. Et cette dynamique, en fait, elle fait beaucoup penser donc à ce contrôle coercitif où les hommes vont, par leur situation, dominer les femmes et les empêcher de mener la vie qu'elles veulent mener.
Donc ils ne les tuent surtout pas, évidemment pas, par amour, même si cette femme décide de les quitter.
Ça fait partie aussi des lectures qui ont beaucoup dominé en France, mais non, bien sûr qu'ils ne l'ont pas tué par amour, c'est plutôt qu'ils l'ont tué par domination, parce qu'ils ont ce privilège de dominer dans nos sociétés patriarcales.
Et c'est souvent la narration, j'allais dire, le narratif même du sentimentalisme, de la passion qui a dominé dans ce genre de cas. Julien Bisson.
Oui, Margot Chassenti, aujourd'hui en France, chaque jour, 3 femmes sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide conjugal. Est-ce que ça a un caractère systémique, et un caractère systémique notamment qui traverse tous les milieux sociaux?
Alors, juste pour dire déjà, c'est 3 femmes à minima, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir exactement combien de femmes sont tuées parce que ce sont des femmes, parce qu'on a souvent ce prisme où on parle seulement des meurtres. C'est un phénomène structurel parce que, en fait, il reste assez similaire qu'il se passe au 19e, au 20e, au 21e, c'est les périodes que j'ai étudiées, donc je peux vous le dire, il faudrait demander aux autres pour les autres périodes, mais on retrouve les mêmes scripts. Donc voilà, des femmes qui sont violentées, qui essaient de quitter le conjoint violent, des femmes qui vont dénoncer les violences et par la dénonciation se font tuer à ce moment-là. Et cette récurrence montre bien qu'on est sur un phénomène social très, très banal et très récurrent.
Alors je voudrais qu'on fasse l'historique avec vous, grâce à vous, hein, de cette notion, Margot Giacinti, et qu'on commence à l'Ancien Régime. À l'Ancien Régime, il y a une notion qui se dessine, qui est surgie, qui est la notion d'uxoricide. De quoi s'agit-il et comment la relier à la notion, cette fois-ci, de féminicide?
Alors l'uxoricide, donc, c'est le fait, au départ, de tuer l'épouse. Donc on a une catégorie sous l'Ancien Régime où on peut se dire « Ah, il y a quand même une forme de reconnaissance du féminicide parce qu'il y a une catégorie du droit qui reconnaît le fait qu'il y a un meurtre de l'épouse et que ce meurtre est puni. » Le problème, c'est qu'il va y avoir, au cours du temps, une forme de symétrisation, c'est-à-dire que cet uxoricide, ce n'est plus seulement le meurtre de l'épouse par l'époux, mais ça devient aussi le meurtre de l'époux par son épouse. Et donc là, on arrive à une symétrisation qui ressemble beaucoup à la manière dont on fonctionne dans le droit français,
ne pas faire
assassiner le conjoint, pas faire de différence. Et donc finalement, cette catégorie-là, elle n'a plus rien à voir avec le féminicide, puisque ce n'est pas le meurtre d'une femme, c'est le meurtre d'un des deux époux.
Julien Bisson.
Le meurtre conjugal va être ensuite édicté dans le Code pénal de 1810. C'est l'article 324. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet article 324 qui pourrait donner l'impression qu'à ce moment-là, on s'est attaqué notamment aux questions du meurtre conjugal et du féminicide qui n'a pas encore ce nom?
Alors, cet article 324, il peut être analysé comme un droit à tuer puisqu'il fait une différence fondamentale. Il permet à l'époux qui trouverait son épouse en flagrant délit dans la maison conjugale, donc il y a quand même pas mal
de conditions,
d'être excusé du crime qu'il a commis. Alors attention, excusé ici, ça ne veut pas dire qu'il est acquitté. Ça veut dire que sa peine est assez faible. Hein, en gros, ça peut être maximum 5 ans de prison. Et par ce phénomène-là, on va avoir tout un tas de procès où les hommes vont être, sans forcément qu'il y ait même reconnaissance que les conditions sont remplies, des fois, c'est la concubine, c'est pas l'épouse. Des fois, c'est pas dans la maison conjugale. Des fois, c'est pas en flagrant délit. Mais qui vont avoir des peines assez faibles.
Pourquoi se mettons à penser à la fin du 19e siècle que le rétablissement du divorce pourra peut-être permettre un jour de réduire le nombre de féminicides? Je vois aussi que ça vous fait sourire.
Oui, parce que c'est quand on y pense, bon, on dit, bon, c'est pas forcément bête, mais il y a cette idée de se dire, qu'est-ce qui fait finalement que les hommes et les femmes se tuent entre eux? Et c'est très important, et vraiment c'est l'idée de se tuer entre conjoints. Et donc, il y a toute une partie, on va dire, de la gauche de l'époque qui commence à dire, en fait, c'est le mariage qui est criminogène, c'est le mariage qui tue. C'est le mariage qui produit quelque chose d'insupportable, qui fait qu'on ne peut pas divorcer, donc on se violente. Et donc, là, d'une certaine manière, la politique publique qu'il faudrait, c'est le divorce.
Et le mariage est surtout l'impossibilité de divorcer.
C'est l'impossibilité de divorcer, en effet. Parce que de 1816 à 1884, il est impossible de divorcer. Vous pouvez demander une séparation de corps, mais vous restez mariés.
Julien Bisson.
Et est-ce que justement l'arrivée du divorce va permettre de faire baisser les chiffres ?
Alors il y a une grande déception de la part des socialistes, c'est le fait que en fait ils se rendent compte que non, c'est le divorce ne va pas vraiment aider. Alors bien sûr, on peut imaginer que des femmes ont recours au divorce pour se séparer de conjoints violents, mais ce qu'on remarque surtout, c'est que à ce moment-là, il y a une lecture qui change fondamentalement et ils se disent mais en fait c'est pas le mariage qui tue, c'est la passion. Donc là, on arrive dans un deuxième moment de lecture du féminicide où c'est plus le meurtre entre époux, mais c'est désormais le crime passionnel.
Je voudrais que vous nous parliez d'une première vague, la première vague de féministes qui, à la fin du 19e siècle, commence à poser des mots sur les choses, à poser des mots sur ces féminicides, justement, sans utiliser le terme, sans recourir à l'expression. Margot Giacinti, quel rôle jouent ces féministes, justement, dans la compréhension de ce crime si particulier, si singulier ?
Ces féministes, alors au départ, essaient en fait de commencer à faire des lectures sociologiques de ce qui peut se passer dans une société inégalitaire pour les femmes. Donc elles écrivent à partir du point de vue des femmes en essayant de se dire, voilà, à quoi on n'a pas droit, qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. Et elles tombent forcément sur cette question des violences, puisque en fait on a, voilà, par exemple Hubertine Auclair qui va se rendre compte qu'en fait sa grand-mère parlait de violences, elle aussi, etc. Donc elles vont essayer de monter en généralité en se disant, voilà, il y a des choses qui facilite le fait que des femmes se font violenter. Elles vont commencer à essayer d'expliquer les raisons. Alors, des fois, c'est le mariage, des fois, c'est cet article 324. En Angleterre, elles vont notamment dénoncer le fait que les crimes de Jack l'Éventreur ne sont pas traités de la même manière que les meurtres conjugaux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elles produisent les premières lectures du féminicide, et même parfois, elles utilisent le terme, puisqu'Hubertine Auclair, elle va utiliser au début féminicide, famicide, fémicide avec deux M. Donc il y a des tentatives d'une proto-catégorie qu'on retrouverait aujourd'hui.
Parole est donnée à Julien Bisson.
Oui, vous avez parlé de cet article 324 et cet alinéa 2 qui expliquait que le meurtre pouvait être excusable. Il va falloir attendre 1975 pour qu'il soit enfin supprimé. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 pour qu'on arrive enfin à la suppression de cet article ?
En fait, cet article, on l'a dit, il y a des conditions qui sont assez difficiles à regrouper pour pouvoir l'utiliser. Et donc, en réalité, il est très peu utilisé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sa philosophie qui l'est. Donc, en fait, finalement, là, on voit bien que le droit n'a pas besoin d'un article pour quand même faire passer des idées et une certaine forme de politique. Donc, il va être supprimé parce qu'il va être considéré comme désuet. Si l'article est désuet, pour autant, la catégorie du crime passionnel, elle va pas du tout être désuète, puisque il y a pas si longtemps, je l'ai entendu en cour d'assises par un avocat, mais pour montrer que finalement, cette question d'un trop d'amour qui aurait participé à tuer est toujours bien prégnante.
Ça romantise encore le meurtre.
Ça romantise.
Il faut nous parler maintenant de la deuxième vague des féministes. Là, on est dans les années 1970 et c'est là que l'on commence à cerner, à percevoir le féminicide comme un phénomène, cette fois-ci, sociologique et structurel.
Oui. Alors, Diana Russell, à qui on doit beaucoup dans cette théorisation du féminicide, essaie de se battre pour essayer de faire reconnaître ce terme, reconnaître l'existence de ce terme. Et donc, elle va commencer tout doucement, pendant un événement qui a été un peu oublié des mémoires féministes, qui est le Tribunal international des crimes contre les femmes, dont on va fêter les 50 ans en 2026.
Et que j'ai totalement découvert en préparant cette émission.
Eh bien oui, parce que c'est même oublié du côté des féministes. Va commencer tout doucement à essayer d'insérer cette notion en disant, voilà, il faut qu'on se dise que les chasses aux sorcières, les néonaticides, etc., ce sont des féminicides. Et elle va poursuivre ce travail, c'est-à-dire qu'elle va pas laisser cette idée s'échapper. 15 ans plus tard, elle produit ce livre avec Jill Radford qui a perdu une de ses amies d'un féminicide. Et elles vont un petit peu se battre pour dire, voilà, il faut maintenant qu'on l'utilise. Donc voilà, le moment du féminicide de Polytechnique à Montréal est le moment où elles vont beaucoup insister sur le fait qu'il y a une utilité à ce terme. Et donc elles vont faire un peu campagne pour l'utilisation et elles disent à ce moment-là, il y a eu des résistances.
Je voudrais vous faire entendre un poème, un extrait de poème signé Pat Parker et lu également par Pat Parker.
What was his crime? He only killed his wife, but a divorce, I say, not final, they say. Her things were his, including her life. Men cannot rape their wives. Men cannot kill their wives. They passion them to death. The three sisters of Shirley Jones came and cremated her, and they were not strong. Hear me now. It is almost 3 years, and I am again strong. I have gained many sisters, and if one is beaten or raped or killed, I will not come in mourning black. I will not pick the right flowers. I will not celebrate her death. And it will matter not if she's black or white, if she loves women or men. I will come with my many sisters and decorate the streets with the innards of those brothers in woman slaughter.
Un poème dit en anglais. Heureusement, Margot Giacinti, vous le connaissez par cœur. Qu'est-ce qui s'y est dit? Qu'est-ce qui s'est raconté dans ce poème?
Alors dans ce poème, donc juste pour dire, Pat Parker, elle va intervenir à ce fameux tribunal de 1976 où elle va lire ce poème qui est une première version, on l'a entendu dans une version aboutie. Et elle explique finalement que sa sœur s'est fait assassiner par son conjoint et que la police a finalement refusé de prendre au sérieux les plaintes que la victime avait pu donner avant parce que c'était une femme, mais aussi parce que c'était une femme noire. Donc là, on est à l'intersection un petit peu hein, de plusieurs rapports de domination où on ne croit pas de la même manière toutes les femmes qui viennent porter plainte. Voilà, donc là, dans ce poème, Pat Parker montre finalement qu'elle a bien été tuée parce qu'elle était une femme et elle contribue par la poésie, en fait, à formuler, à partir d'un cas pratique, la récurrence de ces faits banaux.
Et le tout début en français, ça donne quel était son crime. Il a seulement tué sa femme. Mais un divorce, je dis que ce n'est pas définitif. Ils disent que ses affaires lui appartenaient, y compris sa vie. Les hommes ne peuvent pas violer leurs femmes. Les hommes ne peuvent pas tuer leurs femmes. Julien Bisson.
Oui. Avec donc Diana Russell, vous avez rappelé, dans les années 1990, on a la conceptualisation du féminicide. Avec ce terme, avec ce concept de féminicide, vous revisitez dans votre essai 5 cas pratiques qui ont eu lieu dans la région lyonnaise, 5 affaires meurtrières. Et vous arrivez avec ces cas pratiques à nous permettre de comprendre quels sont les traits communs au féminicide. Peut-être qu'on peut les évoquer un peu à la suite les uns les autres. Le premier, c'est la mort annoncée. Expliquez-nous ce que c'est que la mort annoncée.
Alors la mort annoncée, c'est que contrairement à ce fameux concept de crime passionnel qui met en avant que c'est un crime spontané, de la folie, de trop d'amour, tout d'un coup il l'a tué, en fait en réalité, on est sur un fait qui a été annoncé. Il a été annoncé de plusieurs manières, par des violences antérieures, des violences qui peuvent être des violences physiques, sexuelles, mais aussi des violences psychologiques et administratives, ce qu'on a peut-être tendance à oublier. Et ensuite, il y a aussi la question de la menace de mort qui est essentielle, c'est-à-dire que ces femmes, elles ont compris qu'elles étaient tuables parce qu'on leur a dit qu'elles étaient tuables. Donc, par exemple, il peut y avoir des menaces de mort qui sont « je vais te tuer », mais il y a aussi des menaces de mort qui vont s'accompagner du fait de montrer une arme, donc une arme à feu. Par exemple, je vais te tuer avec ce revolver qui est dans cette commode. Ça peut être aussi des couteaux de cuisine. Il y a même un rasoir sous l'oreiller. Donc voilà, on par ce biais, finalement, la victime est tout à fait consciente qu'elle est tuable et que sa mort peut être même imminente. Donc on n'est pas sur un fait qui est un coup d'éclat.
Illustration par ce formidable LSD intitulé « Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes ». C'est signé Pauline Chanu et c'était diffusé en 2024 sur l'antenne de France Culture.
Depuis le départ, il dit qu'il va la tuer. Il le dit en toute impunité, il le crie sur les toits, il lui envoie des photos de pierres tombales. Il a commencé, par l'intermédiaire de ses amis, à menacer physiquement ma sœur. Et finalement a annoncé la façon dont ça allait se terminer. Ma sœur s'est rendue à la police quasiment tout de suite, c'est-à-dire une dizaine de jours après la rupture, elle va pour la première fois au commissariat de Lille, en atteste la première main courante, datée du 11 février 2019. Il est dit qu'il n'accepte pas la rupture, qu'il revient toujours la voir, qu'il s'est énervé, qui lui a dit qu'il passerait par les jardins ou le toit pour rentrer chez elle. Donc clairement, c'est une main courante où on voit qu'elle a peur. Et l'intitulé de la main courante, c'est « Différent entre époux, concubins ».
Il y a deux choses, hein, Margot Giacinti, qu'on peut isoler dans cet extrait. Deux choses notamment, évidemment, la première, vous l'avez mentionné, hein, c'est cette mort annoncée. Là, c'est clair est net, c'est effrayant. Même la deuxième, c'est peut-être une forme de micro-résistance de la part de la victime potentielle, puisqu'elle se rend à la police. Or, il y a une idée extrêmement répandue et fausse à propos des féminicides, c'est cette prétendue passivité des victimes.
Oui, en effet, c'est quelque chose qui m'a un peu troublée parce que, ayant vu enfant les campagnes en fait qui montraient des femmes comme des victimes passives, quand je suis arrivée dans les archives, je me suis confrontée à des actions très fortes de leur part et même des actions qui sont devenues finalement déterminantes dans leur mort. Donc, pour être très explicite, c'est au moment où elles se mettent à agir parce qu'elles ont compris qu'elles étaient tuables. Donc, ça peut être effectivement porter plainte. Donc voilà, ça peut être dénoncer les violences, ça peut être quitter, ça peut être essayer de fuir par tous les moyens. C'est à ce moment-là qu'elles sont dans un moment de risque important d'être tuées.
Julien Bisson.
Troisième élément qu'on va retrouver dans toutes ces affaires que vous avez étudiées, c'est l'accueil fait par les policiers, les magistrats, avec un accueil sexiste qui va être mené de ces pré-victimes de féminicide. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui va se poursuivre au fil des décennies, au fil des siècles ?
Alors oui, d'une part parce qu'il y a cette difficulté pour la justice de rentrer dans la sphère familiale, dans la sphère privée, et en particulier dans un moment, alors c'est moins le cas au XXIe siècle, mais au XIXe et au XXe ça l'est, où finalement le père, le mari est le chef de famille. Il a des droits que n'ont pas son épouse, que n'ont pas les enfants. Et donc rentrer dans un territoire où de toute manière on n'est pas complètement légitime d'aller, bah c'est compliqué. Il y a à cette première difficulté une seconde qui est sans doute le fait que on ne lit pas ces violences systématiquement. Donc par exemple, on va louper des déclarations de violence, de viol, de violences administratives, et donc on a effectivement pas de lecture systémique des violences. Donc on laisse complètement passer que ces femmes, elles peuvent se faire tuer très rapidement.
Une autre chose que j'ai découverte, Margot Jacinti, en vous lisant, c'est le recours régulier dans les années 50, 60, 70, dans le champ féministe, de cette expression, de ce terme de terrorisme pour désigner la situation de domination des hommes à l'encontre des femmes, la situation évidemment de terreur, de menace, de peur, d'angoisse. Expliquez-nous d'abord quel était l'usage de cette expression et pourquoi surtout de moins en moins nous y avons eu recours.
Alors, dans les théorisations des années 70, il y a quelque chose de très fructueux, c'est qu'elles essaient vraiment jusqu'au bout d'essayer de définir la logique qui pousse en fait à la violence. Et donc, une manière de qualifier ce qui pourrait aujourd'hui être considéré comme un contrôle coercitif, c'est vraiment de dire en fait, c'est un terrorisme parce qu'il va mettre en place tellement de terreur auprès des victimes qu'elles vont être dans l'incapacité d'agir fermement, ou quand elles essaient, en fait, elles savent toujours qu'elles sont dans le risque de se faire tuer. Ce terrorisme patriarcal, on l'a un petit peu oublié, c'est en relisant les archives que du coup je suis retombée dessus et je me suis dit que c'était quand même assez intéressant parce que on a souvent tendance à utiliser des termes terrorisme dans d'autres cas, mais en fait parfois, en fait, le terroriste, hein, ça va être le mari, ça va être le mari violent, le conjoint violent, le frère violent, etc. Donc ça permet d'un peu de replacer qui sème la terreur en fait en réalité dans le foyer.
Et puis ça permet aussi de relativiser l'idée que les féministes d'aujourd'hui serait plus excessif que celle d'hier, Julien Bisson.
Oui, ce concept de féminicide a été intégré dans le droit pénal de nombreux pays ces dernières années, notamment des pays d'Amérique latine et centrale, où les féminicides sont en effet légion. Ce n'est pas encore le cas en France. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ce concept reste encore en dehors de notre arsenal pénal et judiciaire ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Sans doute, la première, c'est que on a du mal en France, en fait, à faire des différences dans le droit. Parce qu'on part du principe que les hommes et les femmes sont égaux. Donc, on a du mal à faire des différences et de reconnaître, finalement, dans le droit, qu'il y a des rapports sociaux, des rapports de domination. Donc, on va dire qu'il y a toute une partie de la magistrature qui s'est opposée à l'entrée du terme. Parce que, en disant, voilà, simplement, on a de quoi, finalement, poursuivre les auteurs de violences, et on a de quoi les punir gravement. Le problème, c'est que, en ne reconnaissant pas le féminicide dans le droit, on a un souci pour les comptabiliser, le définir. Donc, actuellement, par exemple, il n'y a pas dans les rapports et les comptages de la délégation aux victimes, qui est un peu l'organe qui compte les féminicides, on n'a pas ce terme qui est utilisé, ce qui est quand même un gros problème. On a mort violente au sein du couple, qui rappelle quand même beaucoup luxoricide ou du moins le meurtre entre époux du 19e siècle. Donc on a l'impression qu'on a une vraie difficulté à avancer sur cette question du droit, même pour des raisons purement statistiques, pas forcément de punir.
En quelques mots, vous avez dit on a du mal en France, et là vous parliez du champ strictement légal, judiciaire, juridique. Est-ce qu'au-delà de ce champ-là, il y a une singularité française dans le traitement, dans la perception des féminicides ?
Alors on reste aujourd'hui dans une lecture qui est assez conjugaliste. C'est-à-dire qu'elle restreint beaucoup les féminicides au cadre du couple, ce qui est un vrai problème parce que le concept tel que théorisé autant par les féministes du 19e que celles du 20e siècle, c'est bien de dire qu'il y a des formes très différentes, c'est vraiment meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. On peut être tué pour plein de raisons différentes.
Merci beaucoup Margot Giacinti. Je rappelle le titre de ce livre, Orange, le commun des mortels, faire face au féminicide. C'est aux éditions Divergence. Julien Bisson, vous nous rappelez ce que l'on trouve dans le 1 cette semaine, toute la semaine?
Ces femmes qui résistent, un numéro double avec un grand poster pour rendre hommage au courage de ces résistantes qui se battent contre le retour de bâton réactionnaire.
Un grand merci à vous deux de cette discussion dans Question du soir.